Vous êtes sur RTL.
7h46, excellente journée à vous tous qui nous écoutez sur la première radio de France. Elisabeth Martichou, vous recevez donc ce matin Marc-Olivier Fogiel qui vient de publier son livre « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?» aux éditions Grasset.
Bonjour Marc-Olivier Fogiel.
Bonjour Elisabeth Martichou.
Je rappelle pour la forme que vous êtes journaliste à RTL, vous êtes animateur télé. Marc-Olivier, vous êtes connu, vous êtes ce qu'on appelle un people, mais jusque-là vous aviez réussi à...
Parce que vous appelez un people,
ah,
moi
oui,
je m'appelle vous... pas un people.
Oh, si tout le monde considérera que vous êtes suffisamment connu pour être dans cette catégorie, vous réussissiez jusque-là à être discret quand même sur votre vie perso, personnelle. Et là, vous révélez dans ce livre que vous avez fait appel à une mère porteuse pour devenir avec votre mari, papa de deux petites filles. Donc, vous mettez ça sur la table, vous rendez public votre histoire. Par militantisme ?
Non, je pense être journaliste d'abord. Pas du tout militant d'ailleurs dans ma vie, je ne suis pas. J'ai longtemps hésité. Et quand j'entends les débats aujourd'hui, des débats tronqués, des débats faits de fantasmes, je me suis dit je vais opposer des faits pour que chacun puisse avoir un avis sur une réalité. Pour ça, il fallait que je me dévoile. Pas que, c'est un livre d'enquête. J'ai rencontré d'autres familles. Je crois que je n'élude rien dans ce livre. C'est pas un livre au pays des bisounours, parce que la GPA, ça peut très bien se passer. Ça peut aussi être plus compliqué. Mais donc, je le fais, j'allais dire, un peu malgré ma réserve pour mes filles, pour les autres familles et pour le débat public.
C'est pas évident.
Non, c'est pas évident. J'ai longtemps hésité, j'ai d'ailleurs longtemps refusé. J'avais d'ailleurs refusé au patron de Grasset comme il l'a proposé pendant des années. Et puis l'éditeur Charles Danzig est venu me voir. Pour ça, j'ai dit non. J'ai déjà dit non à votre patron. Et il m'a dit, mais racontez d'autres GPA que la vôtre. Et c'est ce qui a été le déclic pour pouvoir le faire.
Oui, parce que c'est un livre de témoignages. Ce qui est intéressant déjà dans ce livre, c'est que vous décrivez en quoi consiste le recours à une technique qu'on connaît mal dans le fond. On connaît les trois lettres, GPA, mais on ne sait pas très bien en quoi ça consiste. Et puis c'est très controversé, on va le voir. Quand vous décidez pour la GPA, vous admettez, vous avouez que vous ne savez pas très bien ce que c'est, comme tout à chacun, vous confondez avec la PMA.
J'ai même des réserves. J'ai vraiment pas du tout envie de m'engager dans cette voie-là au départ.
Bon, et puis vous racontez, on lit dans le livre, effectivement, le cheminement qui vous amène à vous décider à le faire. Puis vous vous renseignez. Vous découvrez d'une certaine façon que la GPA fait appel à deux femmes différentes, deux femmes distinctes.
En décidant d'aller dans ce chemin de la paternité, je voulais fermer la porte de la GPA parce que pour moi, arracher un enfant à une mère qui l'avait porté, c'était quelque chose d'impossible. Et donc, je suis allé voir par moi-même en quoi ça consistait dans les pays où il y a une GPA éthique et qui existe depuis très longtemps. Et j'ai d'abord découvert que ce que je considérais être la GPA, c'était la MPA, la maternité pour autrui, c'est-à-dire une femme qui donnait ses ovocytes et qui portait son propre enfant. Ce qui se fait dans les pays où c'est cadré, ça s'appelle GPA. Il y a une femme qui donne ses ovocytes et une autre qui porte un embryon. Ça change totalement le process et chacune a un profil très différent. Chacune sait exactement pourquoi elle le fait. Et ce qui fait que notamment celle qui porte cet enfant et avec qui on a une relation si forte, puisqu'aujourd'hui elle fait partie de ma famille, elle considère évidemment qu'elle ne porte pas son bébé puisqu'elle n'a aucun lien génétique avec lui.
Ça, c'est la mère porteuse, tout à fait.
Je vais vous répondre, évidemment.
Mais ce qui est passionnant, c'est donc de comprendre à quel point, effectivement, pour la GPA éthique, il y a deux femmes différentes. Et la première étape, ce n'est pas la mère porteuse, par définition, c'est celle qui donne les ovocytes. Vous arrivez aux États-Unis avec votre mari, compagnon, et là, vous sélectionnez cette donneuse d'ovocytes sur catalogue. Comme vous n'éludez
pas les questions. Mis à disposition par une clinique.
Comme vous n'éludez pas les questions, disais-je, donc vous reconnaissez que c'est perturbant,
Bien sûr, au minimum. C'est perturbant, mais parce que ça correspond à la mentalité américaine où le don d'organes, indépendamment de gamètes, n'est pas exactement comme ici, où ici il y a une anonymat du don d'organes. Aux États-Unis, le don est différent. Mais donc ici, quand on est confronté à cette culture-là, où on doit faire un choix, c'est très perturbant. Si ça avait été à refaire, je préfère ce qui se fait ici sur le don de sperme anonyme au départ, puisque ça, c'est possible pour la PMA. C'est pas comme ça qu'on a été confronté aux États-Unis, mais si je fais la fin de l'histoire, j'ai rencontré, ce qui est assez rare, la donneuse d'ovocytes qui est venue voir mes filles en juin dernier, et je me dis, là où j'avais des réserves il y a quasiment 10 ans d'avoir fait ce choix, quand je vois pourquoi j'ai fait ce choix et ce que ça donne aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir fait.
On va s'y arrêter parce que c'est quand même, je disais, perturbant, ça pose des questions. Il y a des critères, vous le dites, il y a un nombre de critères étourdissants. Et vous mettez en avant, vous privilégiez les critères d'intelligence, de réussite scolaire, d'apparence physique, des critères médicaux. Encore une fois, il est bien ce livre parce que vous racontez vraiment aussi vos doutes finalement.
Bien sûr.
Et donc là, on va vous dire, et moi je vous le dis, vous cherchez l'enfant idéal.
Non, je cherche à éviter un éventuel problème. Comme ça existe ici, vous savez, dans le cadre de la PMA, où il y a déjà des recherches sur l'embryon ici en France, des recherches légales. On évite le problème.
Ça,
mais
c'est
ensuite...
plus tout à fait la vraie vie, Marc-Olivier Fogiel.
Ah, mais non,
vous éliminez des risques.
J'essaye d'éliminer des risques, mais ouais. Ce que finalement... après, je suis dans l'autogénétique comme tout un chacun. Comme vous le savez, un embryon, même pas, un ovocyte, après peut arriver... Tout et son contraire dans la vie de tous les jours. Regardez, dans les couples qui font des bébés de façon plus traditionnelle, eh ben évidemment, c'est pas parce que l'un des deux parents est sain que le bébé l'est aussi.
Ouais. Mais
cette recherche sur l'embryon, elle est légale en France, Elisabeth.
Oui, absolument. Mais vous éliminez des risques, c'est plus tout à fait la vraie vie. Cela dit, si vous restiez dans la vraie vie, vous n'auriez pas d'enfant de cette façon-là. Est-ce que vous préféreriez, vous le sous-entendiez tout à l'heure, que ce soit anonyme, finalement qu'on vous attribue
à l'époque,
des ovocytes.
À l'époque, j'aurais eu aucun problème pour ça. Et si aujourd'hui, la GPA a été légalisée, ce que je ne pense pas que la société soit prête pour ça, ça ne me poserait évidemment aucun problème. Ça n'est pas comme ça aux États-Unis. Ça m'a posé un problème, j'allais pas dire éthique, mais il a fallu que je surmonte une difficulté. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait. Parce que si c'était à refaire, je le referais comme ça, finalement. Mais sur le moment, ça m'a posé un problème. Voilà.
Et vous le referiez comme ça, finalement, parce que vous disiez que, d'ailleurs, vous avez rencontré la maman, la donneuse d'ovocytes, pas la maman. Demain, les couples hétéros peuvent se dire moi aussi, je vais choisir un enfant sur catalogue, finalement.
J'ai pas choisi un enfant sur catalogue, etc. Et encore une fois, les couples hétérosexuels, ici, quand ils ont recours à la PMA, quand ils sont donc contraints à une infertilité, cette recherche sur l'embryon évite les problèmes. Mais là, c'est même pas sur l'embryon, hein. C'est un choix d'ovocyte.
Aujourd'hui, ça n'est proposé que pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants sans le recours de la technique. Ça compense une impossibilité. De fait, l'inquiétude, c'est la banalisation.
Encore une fois, l'idée aux États-Unis d'avoir un don qui n'est pas anonyme, ça ne vaut pas que pour les gamètes. C'est la culture américaine, comme la GPA est la culture américaine et qui ne peut pas être transcrite exactement dans les mêmes conditions ici.
La mère porteuse, on y arrive, donc c'est l'étape suivante. Celle-là, elle est choisie par l'agence par laquelle vous passez.
Elle est proposée.
Elle est proposée, donc vous dites oui ou non. Mais c'est
non,
pas
elle dit oui ou non. En fait. C'est dans l'autre sens que ça se passe. En fait.
C'est elle qui choisit le couple. Il y a des règles aux États-Unis. Il faut déjà qu'elle ait été maman deux fois.
Ah oui, il y a beaucoup de règles.
Hein. Et ensuite, il y a un dédommagement.
Il y a un niveau social important. Ça, n'importe quelle femme ne peut pas le faire. Il y a des tests psychologiques. Enfin, il y a tout un long process qui les amène ensuite à choisir. Et évidemment, elles sont testées de pourquoi elles font ça. Il y a très peu de femmes qui sont en capacité de le faire. Et ensuite, oui, elles sont dédommagées pour ce qu'elles font, comme la donneuse d'ovocyte l'est. C'est donc un dédommagement équilibré, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est un comité qui l'établit, c'est autour de 18 000 euros.
18 000 euros pour la mère porteuse.
Moi, j'appelle ça femme porteuse, mais c'est vrai qu'en France, on appelle ça mère porteuse.
Pour la maman porteuse.
Non plus maman,
c'est femme vrai. Porteuse. Alors là, c'est vrai, quand vous en parlez, ou quand vous rencontrez, quand vous allez débattre, c'est difficile de concevoir que ce soit désintéressé. Je veux dire, qu'on veuille tomber... enceinte, sans vouloir devenir mère, sinon par intérêt financier.
C'est même impossible à comprendre quand on ne se rencontre pas ces femmes-là, ce que j'ai fait évidemment à travers Michel qui a porté mes filles, mais toutes les autres, et évidemment, c'est des profils très particuliers, et ces femmes, toutes, j'en connais aujourd'hui pas des centaines, mais une centaine, expliquent qu'elles ont trouvé leur place sociale à travers ça, elles ont trouvé une utilité à travers ce qu'elles font. C'est très particulier. Michel qui a porté mes filles explique qu'elle n'aurait jamais pu donner un ovocyte comme l'a fait Jane, qui a donné son ovocyte pour mes filles. Pour elle, donner un ovocyte, c'est un engagement extrêmement fort. Jane, qui a donné ses ovocytes pour mes filles, dit « Mais comment fait cette femme pour porter des enfants ?» Des profils extrêmement différents. Et elles disent toutes qu'elles se sont accomplies là-dedans. Mais c'est une démarche familiale. Moi, je connais ses parents, puisque ça passe d'abord par là. Je connais ses enfants, je connais son mari. C'est une chaîne qui s'établit.
Oui, et ensuite, vous avez un rapport avec cette femme très forte, puisque vous racontez d'ailleurs que vous partagez des Noëls. Je reviens, des Noëls ensemble, vous allez voir.
Depuis, oui, bien sûr, parce que l'histoire ne peut pas se terminer au moment de la naissance. C'est une longue histoire qui continue aujourd'hui, évidemment.
Quand vous entendez Marc-Olivier Fogiel, ça revient à acheter un enfant. Les adversaires de la GPA s'indignent de ce que le désir d'enfant passe par une transaction.
Je peux comprendre le débat quand on est mal informé, quand on raconte les histoires, c'est pas du tout comme ça que les choses se font. Les adversaires de la GPA, ils ont même ouvert une boutique, comme vous le savez, éphémère, où on peut soi-disant acheter des enfants. C'est ça la réalité des adversaires de la GPA. je comprends que ces sujets-là se posent, c'est pour ça que je fais ce livre. C'est pas du tout la réalité de la façon dont les choses se passent dans les pays où c'est cadré.
Ils disent aussi que ça va les perturber, les enfants. C'est Monseigneur au petit, d'ailleurs, à votre adresse, l'a dit dimanche dernier dans le Parisien, en parlant de votre cas.
Je l'encourage à venir voir mes filles, qui connaissent leur histoire depuis leur origine, de venir avec moi à l'école.
Est-ce qu'elles ont tout compris du processus? Parce que ça paraît... très complexe pour un enfant d'admettre.
C'est très complexe quand on ne vit pas l'histoire. C'est très facile à comprendre quand on met des mots, comme pour tout. Évidemment, si c'est tabou, si c'est flou, eh ben évidemment, c'est machine à fantasmes pour ses enfants aussi. À partir du moment où vous racontez.
Est-ce qu'elles pensent, par exemple, qu'on peut faire un bébé sans femme?
Mais non, bien sûr que non. Elles savent, c'est bien pour ça qu'elles sont face à une réalité. Elles savent très bien que bah, la plupart des enfants, leurs copains, leurs copines qui viennent dormir à la maison, chez qui elles vont dormir, bah, évidemment, ils ont une papa et une maman. Mais elles savent aussi qu'aujourd'hui, il y a une façon de faire autrement, que ce n'est pas la norme, mais que c'est possible aussi comme ça. Et c'est comme ça qu'elles sont nées. Et elles sont tellement à l'aise avec leur histoire que quand il y a des gens qui viennent à la maison, puisqu'il y en a beaucoup qui nous demandent comment on a fait, et notamment des couples hétérosexuels,
elles racontent
leur histoire.
Et comment ?
Oh ben, ça dépend des questions qu'il y a, mais par exemple, il y avait une femme qui est venue récemment à la maison et en fait, sa question était de savoir comment les enfants allaient considérer la mère porteuse. Mais elle tournait autour, comme les filles étaient là, elle ne savait pas comment leur poser la question parce qu'elle avait peur de les traumatiser. Ma grande, qui était, à un moment donné, en avait marre, parce qu'elle en a marre à raconter son histoire, lui dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Donc, elle lui dit, mais tu veux savoir si Michel, c'est ma maman? Et elle lui a répondu, bah, tu vois bien que j'ai deux papas. Donc, cette dame en question lui dit, oui, mais c'est qui alors, Michel? Bah, elle dit, c'est grâce à elle que je suis née.
C'est grâce à elle que je suis née, à la maman qu'elle voit
tous les
simples.
Noël. Quand,
c'est
dans,
aussi
dans,
simple.
Dans leur cœur et dans leur tête, tout est clair. À partir du moment où c'est clair, tout ce qui, après, ça pose... Et on est là pour après les accompagner. Voilà, on est là simplement pour les accompagner, leur répondre à toutes leurs questions. Et j'aimerais que les opposants à la manif pour tout, au mariage pour tous, viennent à l'école, voient les profs, et quand ils nous disent... Mais de voir des petites filles aussi équilibrées dans une classe, c'est la réponse à toutes les questions que les gens se posent légitimement.
J'aurais eu de plein de questions encore à
J'ai
vous poser.
J'ai trop parlé, Elisabeth.
Mais vous savez ce que c'est, non hein
Hélas,
c'est terminé.
Hélas, d'être débordé
Hélas,
par
on aurait pu
un
parler. Est-ce que c'est un
trop.
Privilège de riche voilà, la GPA encore aujourd'hui. Est-ce que l'amour peut tout expliquer? Quand on n'aime plus, on peut avoir un désir d'enfant et une fois qu'ils arrivent, ne plus les aimer. Ça aussi,
aimer
ça pose des
ne
questions.
Ne plus aimer les enfants ou de plus aimer soi-même, le couple en question.
On peut avoir un désir d'enfant. Et ensuite ne pas les aimer. L'amour, c'est pas une baguette
magique. En tout cas, c'est pas ce qui nous est arrivé. Moi, aujourd'hui, je suis d'abord papa et mes enfants, c'est ce qui compte au-dessus de tout. Donc, ça aurait pu arriver, mais c'est pas du tout arrivé comme ça.
C'est un livre réussi, pudique, informatif qui donne. N'ayez pas peur, comme disait le pape. Lisez-le, c'est la famille.
Je vais l'envoyer au papa
chez
avec
Grasset.
Une petite dédicace. Merci, Elisabeth.
Merci à tous les deux. Dans un instant, le journal de 8h.